vagabondage sans prétention dans nos existences. Chers auditeurs de Tranche de Vie, lorsque vous allez au cinéma, ou lorsque vous alliez au cinéma, mais j'espère que vous regardez encore des films, vous avez certainement souvent eu l'occasion d'admirer des décors naturels, des bâtiments où se déroule l'action, et puis les intérieurs. Et vous vous êtes peut-être demandé comment ces lieux de tournage étaient sélectionnés. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir comme invité une personne dont c'est précisément le métier de repérer pour le réalisateur les décors des films. Aliénor, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment devient-on repéreuse, puisque je crois que ça s'appelle comme ça, de cinéma ?
Ben bonjour Jean-François, merci pour l'invitation. Oui, repéreuse, c'est un métier qui est en lien avec d'autres métiers, en fait. Moi, j'ai commencé en tant que régisseuse de films. Donc, régie, c'est tout ce qui va être l'organisation d'un tournage, l'accueil de tournage, et puis après, mettre en place les hébergements, l'arrivée des équipes. Donc ça, moi, j'ai commencé par faire ça et... En fait, on m'a contactée pour un court-métrage, qui cherchait des décors. Donc j'ai accepté la mission, c'était ma première mission en tant que repéreuse. Et donc j'ai trouvé tous les décors du film. Donc c'était en 2014. Et c'était un film contemporain, qui se passait dans une ferme en Dordogne. Et donc j'ai cherché cette ferme. Donc c'était mon premier... ma première mission de repérage.
Alors, vous êtes devenue repéreuse un peu par hasard, bien que vous ayez déjà, comme vous avez expliqué, un petit peu le pied dans le cinéma. Quelles sont les qualités que doivent avoir les personnes qui se chargent de ce travail en amont du tournage ?
Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que... Pour le coup, déjà, il faut bien connaître là où on habite et son département. Parce que des repérages, souvent, c'est sur tout le département. La Dordogne, c'est grand. Moi, je suis née ici, j'ai grandi ici. Mais bon, je sais qu'il y a de part et d'autre de la Dordogne, il y a des coins qu'on ne connaît pas forcément. Donc, c'est bien d'avoir un peu une vision d'ensemble de tout ce qu'on peut avoir comme patrimoine. Environnement naturel sur le département. Et après, c'est beaucoup de qualités de relationnelles, en fait. Être proche des personnes et surtout avoir vraiment un dialogue dès ce moment-là. On fait bien faire comprendre aux personnes qui vont louer leur décor comment va se passer un film. C'est toujours un peu impressionnant d'avoir 30-60 personnes qui débarquent puis qui bougent tout et qui repartent comme ça. Donc c'est vraiment de pouvoir de donner confiance à ces personnes et aussi que les de créer le lien avec les productions, parce que ces propriétaires qui vont louer vont aussi avoir un lien avec la production, les acteurs, les techniciens, créer vraiment un climat de confiance et être un petit peu le garant la bonne fin.
Ça c'est la première qualité à votre avis. C'est la première qualité à votre avis. Mais il faut quand même vous. Alors moi j'ai plein de questions à vous poser. D'abord, pourquoi la Dordogne ? Il y a quand même plein d'autres qualités que vous devez avoir. Je pense que quelqu'un qui veut faire ce métier, il doit avoir une certaine culture quand même.
Oui, aussi, c'est vrai. C'est une culture. Oui, une culture, alors culture cinématographique aussi, mais pas forcément en fait. Je pense que c'est un métier qui est très instinctif et où en fait on est sur le terrain et c'est plus avoir une vision d'ensemble et de pouvoir se projeter en fait.
Quand même, si le réalisateur ou là, alors je suppose que vous lisez le scénario.
Alors ça, c'est la base. La première mission pour un repéreur, c'est de lire très attentivement le scénario et de pouvoir après en discuter et d'échanger avec l'équipe artistique.
Alors si après la lecture du scénario, et ça vous est confirmé par le réalisateur qui vous dit « moi je veux du XVIe siècle », si vous lui apportez du Le Corbusier, ça va pas. Donc je suppose que c'est là que votre culture personnelle intervient.
D'accord. Alors oui, c'est vrai que déjà l'époque va vraiment orienter les repérages, 16e, 17e, 18e, là, à chaque fois, évidemment, on est dans des décors bien particuliers. Donc il y a une culture, historique. Alors des fois, il y a des époques, moi je me documente aussi sur des époques où, alors, une partie, par exemple, du 18e siècle, très précise, où il y a peut-être des décors intérieurs très particuliers. Donc là, je me documente aussi pour pouvoir, bien coller à l'époque.
Est-ce que ça, c'est la seule chose dont vous êtes obligé de tenir compte ? Parce qu'il y a des impératifs de tournage. Si à côté de l'endroit qui vous convient, qui semble bien convenir, il y a un énorme bâtiment tout neuf, ou des hangars qu'il faudrait absolument supprimer, ça ne doit pas aller. Et puis j'imagine qu'il y a des problèmes d'accessibilité aussi pour les équipes de tournage.
Oui, c'est ça en fait. C'est une multitude de détails qu'il faut prendre en compte. Donc un magnifique décor peut ne pas être accessible. On étudie un peu toutes les contraintes avec la production. C'est vrai que ce qui compte en premier, c'est quand même l'attrait artistique pour un lieu. Après, il y a des lieux, par exemple, qui ne payent pas de mine. Et avec l'équipe de décoration, on peut aussi réfléchir à remeubler ou reconstruire. Il y a aussi cette étape-là. Après, ça dépend du budget de la production. Mais on peut aussi se projeter dans un lieu qui n'est pas forcément celui qu'on pense.
D'accord. Là, vous proposez une coquille, et puis ensuite, c'est au décorateur de remplir la coquille suivant les exigences du tournage. Quand vous faites ce travail, est-ce qu'il vous arrive d'essuyer des refus de la part des gens, ou bien des propriétaires d'un bois qui est particulièrement attrayant, ou d'un château, ou d'une maison?
Oui, un grand nombre de fois, on essuie des refus, oui, malheureusement, parce qu'il y a, des lieux que j'ai pu quand même aller voir, et les propriétaires veulent garder leur intimité, ou ne veulent pas tout simplement accueillir de tournage, donc oui, il y a toujours beaucoup de refus. Après, il y a des fois des refus qui se transforment en oui, parce que aussi on passe du temps, qu'on a des affinités.
C'est là que le relationnel entre en jeu. Alors aussi, ce que je voulais vous demander, c'est quand vous avez fait ce travail, évidemment en dialoguant avec le décorateur, le réalisateur, qu'est-ce que vous avez à présenter ? Je suppose que vous avez à présenter un dossier.
C'est ça, on fait un dossier de repérage, qui est un dossier de photos, avec plusieurs propositions pour un même décor. Alors des fois ça peut être 2-3 propositions pour un décor, des fois ça peut être 10 propositions pour un décor. En tout cas, ce qu'on attend de nous, c'est d'avoir plusieurs propositions. Après, il y a des décors assez difficiles à trouver, donc une proposition peut être étudiée, mais en général, pour chaque décor, on en voit plusieurs. Et on en propose plusieurs aux réalisateurs.
Alors quand vous faites ce dossier, vous êtes obligé de faire une sorte de bilan avec les avantages et les points positifs, et puis au contraire les points négatifs. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se présenter ?
Alors avec le réalisateur, on ne parle pas trop de logistique. On va parler vraiment que de l'artistique. Est-ce que ce décor correspond à l'époque ? Est-ce qu'il lui plaît ? Est-ce qu'il arrive à se projeter, en fait ? C'est ça. Après, avec l'équipe de production, on a un autre dialogue, c'est celui des contraintes. Voilà, de la logistique, du coût. Mais ça, on n'en parle pas au réalisateur. Et surtout, nous, en tant que repéreurs, on va proposer des décors où on a déjà réfléchi à tout ça. Donc en fait, moi j'ai déjà étudié toutes ces contraintes et je leur fais des propositions qui sont réalisables.
Alors, vous avez parlé des refus. Est-ce qu'il y a un dédommagement des personnes qui accueillent le tournage? Et est-ce que vous avez des personnes qui manifestent des exigences exorbitantes?
Oui, alors là, c'est sûr. Donc, toutes les locations de décors sont rémunérées par les productions. Hein. Ça, c'est vraiment un point à savoir. Après, il n'y a pas de barème. On me demande souvent, est-ce qu'il y a un barème? Je leur dis, mais non, c'est vraiment une négociation. Ça peut aussi dépendre du budget des productions. Il y a des toutes petites productions qui ont des petits budgets. Et pour le même décor, une grosse production va avoir un gros budget, donc va mettre plus d'argent pour le même décor. Donc en fait, ça aussi, c'est vraiment un dialogue avec le propriétaire, voilà, pour lui dire qu'on aime son décor et qu'on lui propose telle somme. Et c'est à lui d'accepter ou pas la proposition. Mais là, pour le coup, c'est très... Ouais, la tranche, elle est très, très, très vaste.
Je voudrais revenir maintenant en Dordogne pour vous demander pourquoi la Dordogne. Vous avez fait allusion à plusieurs reprises à la Dordogne. J'ai cru comprendre que vous vous occupiez plus spécialement de la Dordogne. Pourquoi ce département?
Parce que déjà, j'y vis et j'y travaille et je le connais. Et comme je vous disais, les repérages, c'est vraiment... On va faire appel à nous en tant que ressource locale. Donc, je pense pas que j'ai de chance d'aller faire des repérages dans n'importe quel autre pays, parce qu'on va faire appel à des repéreurs qui sont aussi installés dans le pays et qui connaissent comme leur poche. En fait, c'est un gain de temps, parce qu'on a, voilà, on a très peu de temps pour les repérages. Et une personne qui arrive, qui connaît pas du tout la région, va mettre beaucoup plus de temps, en fait, à trouver qu'une personne qui est locale. Après, c'est pas toujours le cas. Hein. Là, dernièrement, le film de Ridley Scott qui s'est tourné, c'était un régisseur parisien qui a fait les repérages sur toute la France. Voilà. Donc, il avait les moyens et puis les contacts pour pouvoir le faire. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de règles non plus, mais on préfère quand même privilégier les personnes locales qui connaissent bien les départements et les régions.
Alors, pour les malheureux auditeurs qui ne connaissent pas bien la Dordogne, quels sont les atouts de la Dordogne pour le cinéma?
Eh bien, il y en a beaucoup, des atouts. Déjà, le patrimoine, c'est-à-dire qu'on, de la préhistoire jusqu'à nos jours, on a vraiment des décors intacts de toutes les époques. Les châteaux, les grottes, les paysages naturels, des intérieurs 16e, 17e, 18e, 19e. Donc voilà, c'est très très riche en décors authentiques, on va dire, où là, il n'y a vraiment pas besoin de refaire un décor avec l'équipe de décoration. Donc ça, c'est très important. Après, on a aussi un département qui subventionne le cinéma, ce qui n'est pas le cas de tous les départements. Et ça, c'est vraiment une chance, voilà, d'avoir ce soutien de la part du département en plus de la région, qui donne de l'argent pour les films. Donc ça, c'est deux atouts un peu près.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques aperçus des films pour lesquels vous avez fait des repérages dans le département et qui vous ont particulièrement marqué?
Ah oui, oui. Alors là, il y en a eu des très beaux films. Donc moi, j'ai un très beau souvenir de la série sur Victor Hugo, du réalisateur Jean-Marc Moutou, qui est venu tourner à Périgueux et à Bergerac. Donc ça, j'avais fait des repérages. On avait trouvé un domaine à Bergerac, qui était la maison de Victor Hugo. Et après, on a tourné dans le quartier du Greffe à Périgueux, autour de la cathédrale. Et c'était vraiment une très belle expérience, et avec les habitants, qui ont été vraiment très participants aussi dans l'aventure. Hein. Et l'équipe de production était ravie aussi de tourner à Périgueux et à Bergerac. Donc ça, c'était Victor Hugo. Après...
RLP, ça déchire.
J'ai fait un projet complètement différent. C'était une série pour la chaîne OCS sur la préhistoire. Voilà, une série de fiction. Donc là, j'ai vraiment cherché que des décors naturels, des bords de rivières, des prairies, des grottes. Donc là, c'était vraiment un tournage 100% à l'extérieur. Et c'était très intense. J'ai fait ce repérage pendant la canicule, du coup. C'était très sportif. Donc là, la préhistoire, toute autre époque. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ben là, dernièrement, le film Stella et amoureuse de Sylvie Werder avec Marina Foïs et Benjamin Biolay, où là, on est dans les années 80 et où le film se passe intégralement à Paris. Donc, en fait, j'ai dû chercher des décors années 80 et qui nous transportent aussi dans la ville de Paris. Et ça, on a pu trouver à Périgueux et à Bergerac pas mal d'intérieurs. Il y a eu des appartements, des intérieurs, des maisons, une maison à Coulonnier-Chamier. Voilà un peu pour la diversité des repérages. Et il y en a eu d'autres. Oui, j'ai fait un court-métrage aussi en septembre qui s'appelle « Quand la bête monte » de Marc Sébille, qui va sortir bientôt. Et là, pareil, c'était des repérages extérieurs, alors des routes aussi, des routes. Il y avait un accident de bus, donc il fallait trouver des routes, des bords de rivière aussi. C'est très, très, très varié dans les recherches.
Est-ce que vous avez des témoins de scènes ou d'épisodes particulièrement spectaculaires ou gênant à l'occasion de tournage? Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter là-dessus? Je sais pas moi, le rôle principal qui n'est pas là au bon moment, ou des choses comme ça.
Ah oui, alors ça arrive souvent, hein, que les comédiens ne se réveillent pas, ou qu'on soit obligé de sonner ou d'aller les chercher dans leur lit. Ça, c'est plutôt assez commun, en fait. Bon, plutôt à chaque fois des très bons moments, hein, où les comédiens arrivent un peu en Dordogne, au milieu de nulle part, et ils se disent « mais où c'est qu'on a atterri ?» Et ils repartent après en disant « on va revenir avec nos familles, on va revenir en
vacances ». En général, ce sont des Parisiens ou des gens qui connaissent pas bien ce qu'on appelait naguère la province. Ouais. Voilà, donc, mais malgré tout, est-ce que vous avez, vous, dans les tournages auxquels vous participez, cette impression qu'on a quelquefois, ou qui est rapportée par des acteurs, de participer à un travail vraiment d'équipe, avec une cohésion, avec des moments où on se retrouve et qui sont plutôt conviviaux et agréables.
Ah mais c'est ça, hein, souvent on pleure quand on se quitte, on vit quand même les uns avec les autres et on travaille ensemble de manière très intensive, nuit et jour. C'est vrai que ça crée forcément des liens très très forts. Comme pour ce film qui a été tourné à Périgueux, là, de Stella et amoureuse. En fait, je connaissais la directrice de production parce qu'on avait déjà fait un film à Trémola qui s'appelle Les Fauves, où on avait passé 4 mois enfermés dans un camping, parce que c'était le décor du film et aussi c'était là où on habitait, où l'équipe technique habitait. On était dans les mobil-homes du camping. Et on a passé des moments incroyables. Et du coup, après, les personnes repartent. Et là, voilà, 4 ans après, elles me rappellent. Et puis, on se remémore aussi ces souvenirs-là. Et ils sont très contents de revenir et d'avoir découvert aussi la région. Parce qu'après, ils restent aussi les week-ends, on passe du temps. Moi, je leur dis, allez voir, visiter ça. Enfin, il y a tellement plein de choses à voir. On mange bien, la nature est belle. Du coup, les productions se sentent vraiment bien accueillies en Dordogne. Les Périgourdins sont quand même plutôt chaleureux. Donc.
Oui, bah vous êtes quand même un agent important du renom de la Dordogne et du Périgord, bien sûr. Vous avez, est-ce que l'activité des repéreurs, c'est une activité individuelle, solitaire, ou est-ce que vous êtes organisé, est-ce qu'il y a des maisons qui proposent leurs services, des sociétés qui proposent leurs services, ou bien est-ce que vous travaillez comme ça toujours en freelance?
Alors oui, c'est vrai que c'est un métier assez solitaire. Alors, je suis toujours en lien avec le bureau d'accueil des tournages Cinépassion, qui, eux, en fait, ont une base de données de décors assez importante. Ils sont très, très bien fournis. Eux, ils sont en contact déjà avec les propriétaires. Donc, il y a déjà un échange avec les personnes qui ont proposé leur lieu. Voilà, c'est plus simple, en fait, plus rapide de pouvoir prendre contact. Après, moi, je fais aussi beaucoup de repérage en solitaire, hein, c'est-à-dire trouver des nouveaux lieux, des personnes qui n'ont jamais eu d'expérience avec le cinéma. Et ça peut être plusieurs semaines, voire mois de travail seul, en fait, où je n'ai jamais rencontré l'équipe artistique. Voilà. Je leur parle à distance, mais en fait, on ne s'est jamais rencontrés. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine... pression, en tout cas demande forte de ma part, et c'est des moments seuls, et en même temps je rencontre tellement beaucoup de monde que je suis jamais vraiment seule
là,
à ces moments-là.
Vous avez quand même, vous êtes obligé, on parlait de dossier tout à l'heure, de tournage, vous accumulez tout un capital de connaissances sur la région où vous travaillez. Je suppose que vous êtes de plus en plus prête à répondre à telle ou telle demande, précisément, parce que vous devez avoir une connaissance. Est-ce que vous avez à ce sujet, est-ce que vous avez des relations avec des sociétés historiques, comme les gens qui s'occupent du patrimoine, ou bien comme la société historique et archéologique du Périgord?
Oui, c'est vrai qu'à force...
On peut appeler les sociétés savantes,
oui,
quoi,
oui, locales. Oui. Alors c'est vrai qu'à force de faire des repérages, on a effectivement aussi un réseau. Moi, j'ai beaucoup de propriétaires que j'ai rencontrés dans les lieux où on n'est pas allé forcément tourner, mais que je garde vraiment précieusement parce que ça peut intéresser une autre production. Après, il faut toujours mettre à jour parce que les lieux se vendent, les gens déménagent, voilà. Donc ça bouge énormément. Et oui, alors les ressources locales comme la Société historique et archéologique du Périgord, je les ai beaucoup, beaucoup sollicitées pour les tournages.
Oui.
Hein. C'est vrai qu'ils connaissent très bien. Après, il y a aussi, ça peut être les architectes, les bâtiments de France.
C'est des gens qui vous permettent quand même de prendre des raccourcis, d'aller plus directement.
Oui, complètement. Les agents immobiliers qui connaissent très, très bien le patrimoine aussi. Ça peut être toute personne qui a aussi un métier en lien avec le patrimoine. Hein. Les mairies hein, connaissent très très bien, les conseillers
bien
municipaux,
sûr.
Voilà.
Bon, alors écoutez, on pourrait continuer très longtemps, mais je sais que vous avez une autre activité, que votre activité de repéreuse, une activité qui est quand même en relation directe avec le cinéma. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, ou en parler à nos auditeurs de cette activité de production de documentaires?
Oui, je tenais vraiment à vous parler aussi de cette casquette que j'ai en production, c'est-à-dire que je collabore avec une société de production qui est implantée ici en Dordogne depuis 2006. Et en fait, j'ai vraiment commencé à travailler avec eux avant même de faire des repérages. Donc là, j'étais vraiment dans le monde de la production, c'est-à-dire recevoir des projets, lire des projets, trouver des financements pour les projets. Et c'est chez Novanima, voilà, que j'ai travaillé pendant plusieurs années, avec qui je continue de collaborer, Novanima Productions, qui est une société qui est basée en Dordogne et qui fait des films d'animation et des documentaires. Et beaucoup, voilà, beaucoup d'autres projets. Je vous invite vraiment à aller voir toutes les productions. Il y a des très jolis courts-métrages d'animation qui sont allés jusqu'au César ou dans les festivals. Et je trouve que c'est super aussi de pouvoir... Voilà, parce qu'on a l'impression que tout se passe à Paris. Mais en fait, moi, depuis des années, je peux aussi avoir un métier très créatif ici, en Dordogne.
Dites-moi, là on s'éloigne quand même des décors naturels et puis des châteaux ou des chaumières. C'est le cinéma d'animation. Vous avez reçu une formation pour ça, ou qu'est-ce qui vous a amené vers ce créneau-là?
J'ai pas forcément fait une formation par rapport à l'animation. Après, il y a de toute manière beaucoup d'animations, l'habillage d'un film, ça peut être un générique. Moi, je travaillais pour la chaîne Gulli aussi, à Paris.
Oui.
Donc là, c'était beaucoup d'animateurs voilà, qui faisaient des petites animations. Donc j'avais un peu des notions d'animation. Après, c'est vrai que c'est un travail qui est complètement différent parce que là, c'est du dessin, c'est du travail graphique sur ordinateur. Donc là, on sort beaucoup moins à l'extérieur. Et en même temps, les films d'animation peuvent être énormément Il peut y avoir beaucoup d'archives aussi.
Oui,
il faut aller en repérage, il faut aller voir des lieux, il faut pouvoir retranscrire un peu et parfois redessiner. Je sais qu'on a fait aussi beaucoup de films d'animation à base d'archives, c'est-à-dire...
Alors, là, vous participez à quel secteur de la fabrication de ces films d'animation? Vous dessinez, vous repérez, qu'est-ce que vous faites?
Là, c'est plutôt la production. La production, c'est-à-dire trouver des financements pour les films d'animation, faire les dossiers pour le Centre du cinéma et d'images animées, faire des dossiers pour la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, il y a un gros travail administratif, en fait, pour encadrer ces productions. Et c'est ce travail administratif aussi... que je fais en collaboration avec d'autres collaborateurs de production au sein de Novanima.
Vous pouvez nous donner des exemples ou des titres des productions de Novanima ?
Oui, tout à fait. Alors, dans les films d'animation, il y a un très beau film que je conseille vivement de voir qui s'appelle Sous tes doigts, qui est en fait une sorte de documentaire d'animation fiction. Il y a un film aussi que j'aime beaucoup qui a été primé au festival de Sarlat qui s'appelle Riviera. Un autre très joli film d'animation sur la danse qui s'appelle À travers Jeanne. Après, on a des documentaires comme La Révolution des cantines qu'on a fait en 2020 sur la transition au bio et local dans nos cantines. Je pense que c'est un sujet qui est important et dont la Dordogne est quand même assez précurseur. Donc, c'est un très joli documentaire pour France 3 sur le sujet. Et là, on est en train de faire un magazine d'intérêt culturel qui s'appelle Influ et qui est une coproduction euro-régionale entre Novanima en Nouvelle-Aquitaine et deux sociétés de production espagnoles en Euskadi et en Navarre. Et là, c'est des portraits d'artistes en résidence sur tout le territoire de l'euro-région. Et je pense qu'en plus, on en a besoin en ce moment de voir des artistes au travail. L'art continue à travers ces résidences parce que les artistes peuvent encore être accueillis en résidence en ce moment. Et on est content avec ce projet aussi de pouvoir soutenir ces artistes et toutes les structures qui se battent pour continuer leur activité.
Vous êtes soutenu par la région, bien sûr,
oui,
pas seulement par le département, mais... Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'envisager un petit festival en Dordogne pour mieux faire connaître les productions de Novanima ?
Alors oui, je pense qu'il y a encore... il y a ce travail de diffusion, en fait, de programmation, c'est un autre travail que la production. Ben, il y a le festival de Sarlat, il y a déjà quelques festivals. Je sais qu'il y a un festival sur l'artisanat du film à Nontron. Il y a une programmatrice qui a une association qui s'appelle L'Œil Lucide, qui fait énormément de programmation et de diffusion de films documentaires dans toute la Dordogne. Il y a le mois du film documentaire au mois de novembre. Donc il y a quand même des événements, et même les cinémas eux-mêmes. Je sais qu'à Sarlat, il y a des événements. Il y a le festival documentaire à Montignac. Enfin, je pense qu'il y a, si on regarde bien, il y a quand même beaucoup de festivals et d'occasions d'aller voir les films. Oui.
Aliénor, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté, toutes ces informations qui sont souvent mal connues ou méconnues. Bonne chance pour la poursuite de vos deux activités, assez différentes mais tellement passionnantes. Et puis revenez nous voir quand vous aurez des histoires particulières à nous raconter sur tel ou tel tournage ou bien sur les films produits par Novanima. Merci encore, merci beaucoup.
Merci Jean-François. J'espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres films à venir dans le Périgord. Et surtout qu'on puisse très bientôt retourner dans les salles de cinéma, voir les films. En tout cas, les sociétés de production se mobilisent aussi pour qu'on puisse voir les films en ligne. Donc soutenons toutes ces productions déjà en allant les voir. Et merci. Puis au plaisir de se retrouver. Per il argento.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.